Tout pour investir, les marchés et vous.
Et avec nous, Wilfried Galland de Montpensier Finance. Merci d'être avec nous, Wilfried. Je gardais la surprise parce que c'est vrai que vous êtes un des rares à être disponible un jour férié, mais encore une fois, pas chômé. Il se passe des choses. Vous voyez, l'actualité de marché est quand même assez foisonnante. Bah, peut-être l'occasion de faire un petit bilan avec vous. Un plateau qui oscille au rythme des publications, des anticipations de taux et des matières premières. C'est vrai qu'il y a ces trois paramètres qui sont vraiment à gérer et à regarder de près pour anticiper la progression des indices.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on avait pendant un certain temps, on avait l'impression que les choses étaient finalement relativement claires. C'est-à-dire à partir d'octobre, à partir du pivot de la Fed et de Jerome Powell, on s'est dit tout va bien. On est dans un environnement de liquidité qui est parfait. Et donc on va avoir des marchés qui vont être profondément haussiers. Et puis on s'est rendu compte à partir du début de l'année que les choses étaient un peu plus compliquées, qu'il fallait gérer plusieurs paramètres. Alors effectivement le paramètre des taux et de l'inflation qui était un peu plus résistante que prévu et donc avec des perspectives beaucoup moins claires. Avec, et ça c'était quand même très positif, des résultats d'entreprise qui progressivement se dévoilaient d'abord pour le premier trimestre et ensuite maintenant on le voit pour le deuxième trimestre. Vraiment de très bonnes factures et donc plutôt de bonnes surprises de ce point de vue-là. Sauf qu'évidemment, comme les attentes devenaient de plus en plus élevées, à chaque fois qu'on avait une déception, alors là, c'est effectivement la claque était parfois assez spectaculaire. Et puis le dernier élément, et Antoine, vous l'avez parfaitement souligné, et vous le soulignez régulièrement, je vous en remercie le matin dans votre point bourse, c'est qu'on Merci a beaucoup, effectivement oui. des oscillations de matières premières qui sont assez spectaculaires et qui nous ont emmené jusqu'à ce qu'on ait une petite détente. Effectivement avec des poussées de 14, 15, 20% sur un certain nombre de matières premières, le pétrole en premier lieu, mais aussi l'aluminium, le zinc. Et ça, effectivement, ça inquiétait les opérateurs et les investisseurs parce que ça voulait dire que la base de coût, généralement, de l'économie mondiale est en train de remonter et donc aussi, potentiellement, les circuits inflationnistes pouvaient se remettre en route. Et donc, on avait globalement quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Là, depuis quelques jours, en fait, on est sur l'élan à la fois des belles publications et du discours sur lequel on pourra éventuellement revenir, parce que je pense qu'il est vraiment très important, de Jerome Powell la semaine dernière. Ça donne un petit peu plus de calme et de sérénité. Donc, ça veut dire qu'effectivement, pour l'instant, on est sur un plateau. C'est pas nécessairement la position la plus confortable pour les marchés d'être sur un plateau. Parce que ça veut dire qu'on regarde à la fois en haut et en bas. Mais ça veut dire également qu'on est peut-être en train de consolider gentiment un certain nombre de supports techniques, comme l'ont dit vos invités précédemment. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour les marchés.
Alors, on va regarder un petit peu ce qui reste à venir. Le bilan de la saison des publications, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Et comment les marchés vont-ils absorber trois banques centrales qui se trouvent dans des situations totalement divergentes, puisque la banque du Japon, la banque centrale japonaise, a tendance à vouloir remonter ses taux. La Fed qui pose en se disant qu'il faut garder les taux à leur niveau actuel pour calmer l'inflation, mais ce sera sans doute un petit peu plus long que prévu. Et la BCE qui, elle, est prête à baisser. Tout ça, c'est vrai que pour les entreprises, c'est des dynamiques de fonds qui sont très très compliquées à gérer.
Oui, c'est très compliqué à gérer puisque, en fait, on a un des drivers principaux sur les marchés, c'est effectivement l'environnement de liquidité. L'environnement de liquidité, c'est à la fois les perspectives de taux et puis effectivement toutes les interventions des banques centrales sur les marchés. Et on voit que un des points qui a été largement salué, pas nécessairement très publiquement, mais dans les salles de marché du dernier discours de Jerome Powell, c'était effectivement la réduction du resserrement via le bilan de la Banque centrale américaine. C'est-à-dire, en fait, jusqu'à présent, il était véritablement en train de retirer des liquidités très vite du marché. On était avec un rythme de plus de 60 milliards de dollars par mois. Et là, d'un seul coup, il nous dit, non, mais en fait, je vais réduire ce rythme-là, je vais avoir un rythme beaucoup plus modéré de 65 milliards. Et ça, c'est effectivement quelque chose de très positif. Mais en contrepartie, on a effectivement la Banque du Japon qui va remonter progressivement ses taux. Et là, il y a une grande incertitude parce que les liquidités venant de la Banque du Japon sont un des ruisseaux qui alimente le marché en termes de liquidité. Ça faisait du bien de pouvoir avoir effectivement un environnement très très stable avec des liquidités extraordinairement abondantes et des taux totalement à zéro. Ça va probablement changer, donc ça va nous donner un environnement peut-être un petit peu plus difficile à lire d'un point de vue monétaire. on voit qu'à chaque fois que des banquiers centraux s'expriment, on a beaucoup de changements en fait sur les marchés. Mais la clé néanmoins, et vous faites bien de le souligner Antoine, ça reste quand même les résultats d'entreprise. Il va falloir continuer à avoir de bons résultats parce que quand on regarde l'histoire en fait, les taux d'intérêt sont des éléments qui en fait sont des éléments amplificateurs ou à l'inverse des éléments qui vont atténuer des tendances qui se déclenchent via les augmentations de bénéfices par action. Quand on a une restriction des bénéfices par action, quand on a cette fameuse récession des earnings, en fonction de l'environnement de liquidité, ça peut être plus ou moins violent sur le marché, mais globalement la tendance est à la baisse. En revanche, quand on a une expansion de ces bénéfices, alors la tendance est à la hausse et ça allait accéléré ou ralenti par les taux d'intérêt. Mais c'est effectivement ça qu'il va falloir suivre et c'est pour ça que l'environnement de matières premières est à suivre en tout premier lieu, parce que ça veut dire que il y avait potentiellement, en tout cas jusqu'à peut-être il y a une dizaine de jours, un risque sur les marges des entreprises. Et ça, c'est véritablement quelque chose de très important. Ces marges sont à des niveaux qui sont aujourd'hui très élevés. Il ne faudrait pas que ça baisse, parce qu'à chaque fois que les marges baissent, on a des réactions sur les marchés.
Oui, et puis ça a des implications macroéconomiques. Généralement, c'est signe avant-coureur que l'environnement se dégrade. Petite question subsidiaire quand même. C'est vrai que les absents ont toujours tort. Il y a quand même un petit événement sur les marchés aujourd'hui. Une grande banque centrale, alors pas celle qui est la plus regardée comme la Fed ou la BCE, c'est la banque centrale suédoise qui décide d'abaisser ses taux directeurs. Il y a quelques semaines, on a eu la Banque nationale suisse qui a fait de même. Alors là, pour des problématiques aussi qui sont pas mal liées à la devise suisse, hein, au franc suisse. Malgré tout, ces deux événements, qu'est-ce que vous en déduisez? Est-ce que ça va accélérer l'envie de baisser ses taux du côté de la BCE? Ou est-ce que ça peut provoquer un petit peu de prudence du côté des banquiers centraux en se disant vraiment cette dynamique monétaire bouge à grande vitesse?
Les deux interprétations sont possibles. Je pense que du point de vue de la BCE, le mouvement est assez clair. Oui. Même les plus durs en termes d'orthodoxie monétaire, que ce soit Joachim Nagel l'allemand ou Robert Holzmann l'autrichien, ou même Klasnot le néerlandais, ont tous admis que il fallait maintenant de façon relativement urgente baisser les taux. La question ensuite, c'est le rythme. Et vous avez raison de mentionner la Banque centrale suédoise. Je rappelle qu'effectivement la Banque centrale suédoise, c'est la plus vieille banque centrale du monde, hein, juste avant la Banque centrale britannique, hein, c'est elle qui véritablement a donné le là et l'organisation des banques centrales. Donc elle est toujours regardée. Et effectivement, je pense que on arrive à un point de bascule aujourd'hui, parce que lorsqu'on regarde à la fois les taux de croissance et les taux d'inflation, globalement on a un environnement, je mets à part le Japon une fois de plus, mais on a un environnement monétaire qui est probablement beaucoup trop restrictif par rapport à ce que devrait être aujourd'hui une politique monétaire compte tenu de l'environnement économique. Et donc effectivement, il va falloir piloter un petit peu de façon beaucoup plus fine. Et c'est un peu ce que nous a dit d'ailleurs Jérôme Powell le 1er mai, hein. Il nous a dit maintenant j'ai deux critères. Alors c'est très très bien, parce que deux critères, c'est plus facile finalement pour les banquiers centraux pour ajuster leur politique monétaire. Mais pour ceux qui regardent la politique monétaire, dire à la fois j'ai le critère de l'emploi et donc de la croissance et le critère de l'inflation, ben ça veut dire que ça va probablement être moins lisible. Donc les banquiers centraux vont probablement peut-être plus nous surprendre, mais je pense que la dynamique est clairement à la baisse des taux. La question, c'est la question du rythme. Et ça, effectivement, on aura peut-être un peu plus d'informations dans les deux mois qui viennent jusqu'à l'été, pour savoir quelle va être la dynamique qui va nous attendre à l'automne.
Oui, parce que du côté de la Fed, effectivement, vous parliez de ces deux axes de politique monétaire, hein, qu'a vraiment ponctué Jérôme Powell, hein, l'emploi et l'inflation. Il les met au même niveau, donc finalement, la lisibilité n'est pas évidente, hein, parce qu'il faut manier les indicateurs qui correspondent vraiment à ces deux critères. C'est peut-être la problématique de ces prochaines semaines.
C'est exactement ça. Et je rappelle la phrase de Jérôme Powell disant, en fait, je ne baisserai les taux rapidement que s'il y a une dégradation inattendue du marché du travail. Et c'est pour ça que tout le monde regarde avec beaucoup d'attention le marché du travail américain, qui, dans les chiffres généraux, est toujours très solide. Hein. On est toujours en dessous de 4% de chômage. Ça fait quand même 27 mois qu'on est en dessous de 4% de chômage aux États-Unis. C'est un record depuis la fin des années 60. Néanmoins, on regarde par exemple le volume d'emplois à temps plein qui baisse régulièrement maintenant. On est à plus d'1 800 000 emplois à temps plein détruits aux États-Unis depuis l'été 2023. On regarde l'emploi intérimaire aussi qui a tendance à baisser. On regarde le nombre des licenciements dans les secteurs qui sont normalement les secteurs les mieux payés. Là aussi, ils ont tendance à monter dans la tech en particulier, dans la finance, dans les services aux entreprises. Et donc, effectivement, il va falloir suivre tout ça. Ça va nous donner, en fait, même si Jerome Powell nous a dit pour la stagflation, je ne vois ni stag ni flation, ce qui était une façon, je trouve, assez cocasse de renvoyer ses interlocuteurs dans leur but. Mais néanmoins, ça veut quand même dire qu'il y a cette interrogation sur comment éviter un scénario délétère de stagflation avec une croissance qui baisse et une inflation qui résiste. Ça, effectivement, ça va être non seulement le rôle des banquiers centraux, mais aussi le rôle des acteurs économiques. Et c'est pour ça qu'il va falloir suivre attentivement, et je sais qu'Antoine, vous le faites de façon très précise.
Ah bah on essaye, hein, mais c'est vrai que alors ce petit mot de « je ne sais pas d'où ça vient, je ne vois pas de stag ni de flation », c'est vrai que c'était un petit peu ironique, alors que le jour même, on avait des indicateurs qui montraient que l'inflation restait quand même assez collante et qu'on avait un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques qui baissaient, et notamment les directeurs d'achat et les indices d'activité. Ça ne vous paraît pas un peu étonnant, cette réponse de Jerome Powell ?
Je pense que Jérôme Powell voulait absolument ne pas donner l'impression de céder à une morosité économique qui est déjà beaucoup plus forte qu'elle ne devrait l'être dans les indicateurs, par exemple, d'enquête sur les ménages. C'est assez frappant. C'est-à-dire, quand on regarde effectivement le Conference Board ou quand on regarde l'Université du Michigan, on ne devrait pas être à des niveaux qui sont des niveaux de quasi-récession, alors qu'on est en expansion forte hein, aux États-Unis, et que l'expansion des salaires également est relativement fort. Donc je pense que c'est véritablement un message positif qu'a voulu donner Jerome Powell, et c'est aussi un message qui se détache un peu de la fameuse rhétorique de l'inflation sous-jacente. Il n'en a quasiment pas parlé hein, ces derniers temps. Véritablement, il regarde comment est-ce que se comportent les salaires, comment est-ce que se comportent des éléments effectivement comme le marché de l'immobilier aux États-Unis, mais il est plus du tout dans cette rhétorique sur attention, on a une inflation qui par des éléments par exemple sur les services est beaucoup trop collante. Donc ça effectivement c'est un changement de rhétorique de la Fed. Il faudrait pas qu'il soit surpris. Je pense néanmoins que le pire est probablement vraiment largement derrière nous aux États-Unis. En fait, Jerome Powell veut aussi redonner un peu de perspective. Hein. On vient de 9% d'inflation aux États-Unis, on est maintenant légèrement au-dessus de 3%. Il nous dit attendez, voilà, on est peut-être sur un palier là aussi, comme pour les marchés, mais on n'est pas du tout dans une remontée forte. Donc, ne créons pas des anticipations d'inflation. N'oublions jamais que les banquiers centraux, leur crainte, c'est le désancrage des anticipations d'inflation. C'est ça aussi qu'a voulu donner Jerome Powell, ancrer les anticipations économiques et ancrer les anticipations d'inflation.
Ouais, et du coup, c'est vrai que si on regarde sur les marchés, par exemple, il y a ce type de réflexe à court terme. On voit les taux grimper tout de suite, les valeurs de croissance comme le luxe et la tech avaient tendance à baisser. Bah, maintenant, c'est un petit peu plus partagé. On sent des mouvements un petit peu plus disparates, justement parce que il y a ces sortes de divergences hein, du côté des dynamiques des politiques monétaires des banques centrales qui sont à prendre en compte. Écoutez, merci beaucoup, Wilfried Galland.
Avec plaisir, merci beaucoup d'avoir été
là avec nous dans Tout pour Investir. Wilfried Galland de Montpensier Finance.